Bonjour à toutes et à tous, particulièrement les personnes que je n'ai pas eu le temps de saluer ce matin. Je suis toujours surpris, émerveillé de voir comment le Seigneur conduit toutes choses. Et d'une part, déjà dans la première partie de ce culte, la manière dont il a conduit Michael dans la préparation de cette introduction, j'ai cru que si je continuais de le laisser parler, j'avais bientôt plus besoin de parler ce matin après lui, parce que beaucoup de choses qu'il a partagées se recroisent, et j'ai bien discuté avec lui, il m'a dit « j'ai pas regardé, j'ai pas lu le passage que tu vas nous partager ce matin ». La deuxième chose, c'est que quand j'ai fait le découpage de Philippiens cet été, je trouve génial d'arriver dans le texte qu'on va voir ce matin, qui est tout à fait à propos en ce début d'année. Alors il y a des moments dans la vie, dans nos vies, qui sont favorables pour faire un break, pour faire un petit peu le bilan et pour prendre des résolutions. Peut-être le jour de son anniversaire permet de faire un petit peu le point sur sa vie. Peut-être l'été avec les vacances qui amènent une coupure dans le rythme habituel et avant de rattaquer quelques semaines de boulot, sont l'occasion de faire le point, peut-être de prendre des résolutions. La fin d'année et le début d'année, et oui, c'est aussi un moment favorable pour s'arrêter et réfléchir à ce qui se présente devant nous et prendre des résolutions. Et je fais le constat que souvent, quand on fait des résolutions, quand on prend des résolutions dans nos vies, ces résolutions sont en lien avec un objectif ou des objectifs que l'on se fixe. Quelqu'un qui a l'objectif de progresser en sport ou progresser en musique va peut-être prendre la résolution d'être plus assidu à ses cours de sport, de travailler plus, de donner plus d'intensité dans ses cours. Quelqu'un qui a peut-être pour objectif de perdre du poids va prendre la résolution de manger plus sainement, va peut-être prendre une autre résolution qui est d'aller courir, faire du sport, se dépenser, etc. etc. Peut-être quelqu'un qui veut progresser dans sa carrière va prendre du temps, la résolution de se former de manière plus précise pour devenir un petit peu plus pointu dans un domaine ou dans l'autre. Ma question ce matin pour vous, pour nous, tout d'abord, suite à ce que je viens de partager, quel est l'objectif de nos vies. Et du coup, puisque les résolutions sont en lien avec cet objectif, finalement, quel est l'objectif pour nos vies pour cette année? Et en conséquence de cet objectif, quelles sont les résolutions que l'on veut prendre ou que l'on a prises? On avance donc dans le texte, dans la lettre aux Philippiens. On va terminer cette lettre dans ce courant du mois de janvier. Et on va voir dans le passage de ce matin que Paul nous fait part d'un objectif pour sa vie et de trois résolutions. Un objectif et trois résolutions. J'étais cette semaine écouter les vœux de notre maire, Monsieur Mariton. J'ai beaucoup apprécié. Et il a fait part d'un vœu en particulier pour la ville qui est un vœu de mouvement. Et vous allez voir que ce texte qu'on va aborder ce matin nous parle de mouvement plus que toute autre chose. Je vous invite donc à lire Philippiens chapitre 3, les versets 12 au chapitre 4, verset 1. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez tous mon exemple, frères, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé. Je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit précédemment, Paul nous révèle son objectif, l'objectif de sa vie, qui peut être l'objectif de nos vies, qui devrait être l'objectif de nos vies. Et du coup, trois résolutions qui découlent de cet objectif. Paul fait appel à l'image de la course, cela ne vous aura pas échappé, mais il commence en affirmant qu'il n'est pas parvenu au but, qu'il n'a pas atteint la perfection, qu'il n'a pas encore saisi le prix, versets 12, 13 et 14, mais qu'il court vers le but pour saisir, pour remporter le prix, versets 12 et 14. Alors quand on rentre comme ça dans ce texte et devant cette affirmation de Paul, on peut se dire, mais de quoi est-ce que Paul est en train de parler? Et il faut revenir juste à ce que Paul nous disait précédemment et qu'on a vu la dernière fois. Rappelez-vous, Paul parlait de ces personnes dans l'Église qui leur disaient que Christ n'était pas suffisant, mais qui avaient besoin dans leur vie de Christ plus tout un certain nombre de rites religieux. Et Paul disait, de toute façon, si on gagne Christ par nos œuvres, par notre mérite, moi je serai le premier à mériter quelque chose parce que de par mon origine, ma race, mon observance, ma fidélité à la loi de Dieu, j'ai de quoi faire valoir des choses devant Dieu. Mais d'un coup, j'ai rencontré Christ dans ma vie et quand j'ai découvert Christ, eh bien, j'ai découvert que toutes ces choses sur lesquelles je fondais mon espoir, eh bien, ne servaient à rien. Et là, maintenant, tout ce que je veux, maintenant que j'ai rencontré Christ, c'est gagner Christ, c'est connaître Christ. Et il dit au verset 10, « Mon désir est de ressembler à Jésus-Christ. » Voilà l'objectif de Paul, que sa vie ressemble toujours plus à Jésus. Et en ce sens-là, il sait qu'il est engagé dans une course, et c'est pour ça qu'il dit « Je ne suis pas arrivé, je ne suis pas arrivé. » Mais je cours vers ce but, et il parle de cette ligne d'arrivée, et cette ligne d'arrivée représente le moment où Paul sait que Jésus reviendra, et qu'à ce moment-là, la course sera terminée. Et cette course se terminera même déjà quand il quittera cette terre. Mais ce but sera atteint quand Jésus-Christ reviendra. Alors, quelle est cette vie semblable à Jésus-Christ que Paul veut vivre? Eh bien, cela nous ramène encore à ce qu'on a vu précédemment dans Philippiens au chapitre 2, les versets 5 à 11, où Paul nous dépeint la trajectoire que Christ a suivie. Il a renoncé à sa gloire, il s'est abaissé, s'est humilié, s'est fait serviteur, a obéi à son Père en allant jusqu'à la croix, vie de souffrance. Et il est ressuscité, il a été élevé et glorifié ensuite par son Père. Et Paul dit, je veux mon désir, mon but, mon objectif pour ma vie, c'est que ma vie soit de plus en plus le reflet de la vie de Jésus. que les gens, quand ils m'observent, puissent voir de moins en moins le vieux Paul et voir de plus en plus Jésus dans ma vie. Mon désir, c'est de grandir dans mes pensées, dans mes actes, dans ma manière de parler, d'agir. C'est de grandir et que je sois de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Je veux apprendre toujours plus à renoncer à moi-même, à grandir dans l'humilité, à grandir dans l'amour pour les autres et le service, à grandir dans l'obéissance, dans une vie qui plaise à Dieu. Mon désir est de vivre pour Jésus, de vivre comme Jésus. Alors cette course, Paul le dit, va nécessiter des efforts, de l'énergie au verset 13. Et sur quoi est-ce que Paul compte pour avancer dans cette course qui demande de l'effort, qui demande de l'énergie? Que dit-il au verset 12? Je cours en avant parce que Jésus-Christ s'est saisi de moi. Et je crois que ça, c'est une marque de la vie chrétienne. Quand Jésus-Christ se saisit de nous, se saisit de nos vies, notre désir est de vivre à l'image de Jésus-Christ, d'aller de l'avant. Paul puise ses forces dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Paul puise ses forces dans sa nouvelle identité. Il dit, ça y est, c'est acquis. Christ s'est saisi de moi. Je suis son enfant. Si demain il arrive quoi que ce soit, ma vie est entre ses mains. C'est pour ça que je peux courir et devenir sur cette terre ce que je suis déjà en Jésus-Christ. Et peut-être cette première application pour nous, cette année, est-ce que Jésus-Christ s'est saisi de vous? On a parlé encore de l'œuvre de Christ. Peut-être que ce matin, c'est l'occasion et ce début d'année est l'occasion de répondre à l'appel que Jésus-Christ vous fait de le suivre, de lui confier, de lui remettre votre vie. Il n'y a rien de plus beau que l'on puisse vous souhaiter et plusieurs parmi nous peuvent le témoigner de la bénédiction de vivre cette relation avec Dieu au quotidien. On a parlé de sa fidélité, on a parlé de la joie. On a parlé des épreuves aussi, des choses difficiles de ce monde, mais que l'on peut traverser avec Jésus-Christ. Est-ce que Christ s'est saisi de vous? Est-ce que ressembler à Jésus-Christ est l'objectif de votre vie? Est-ce que cet objectif reste en pole position dans cette année qui est devant vous? Pour avancer, pour se rapprocher de ce but, Paul propose donc trois résolutions qui sont en lien avec notre regard. Michael a parlé tout à l'heure de la navigation et que même si le bateau tire des bords pour pouvoir se mettre dans le bon sens du vent, mais le marin garde un seul objectif, une seule direction. Première résolution, justement, regardons devant nous, Paul dit, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de courir. Alors, pour moi, déjà, juste la course, ce n'est pas facile. Ce n'est pas ma résolution de sortir courir cette année. Mais si vous avez fait l'expérience d'essayer de courir en regardant derrière vous, c'est casse-figure. J'ai entendu, je ne saurais plus le citer, mais des athlètes qui, lors d'une course, ont perdu la course parce que dans les derniers mètres, l'athlète a tourné la tête pour voir où étaient ses concurrents. Cela lui a fait perdre du temps et il a perdu la victoire. J'aime aussi beaucoup la moto, et très rapidement, quand on passe le permis, le moniteur nous dit « Attention, quand vous êtes en moto, où est-ce que vous portez votre regard ?» Parce que la moto va aller dans la direction où vous posez votre regard. Si vous attaquez un virage et que vous regardez le bord de la route sur le côté, donc la moto va partir vers l'intérieur du virage et dans le bord. Si vous regardez trop l'extérieur, vous allez vous déporter et vous risquez le danger de croiser une voiture en face. Non, il faut porter votre regard loin, devant, à la sortie du virage. Et c'est vrai que j'ai pu le constater et en faire l'expérience. Paul dit qu'il oublie ce qui est derrière lui. Quelles sont les choses, et je vous pose la question, quelles sont les choses que nous devrions oublier qui sont derrière nous et qui peuvent nous ralentir? Je vous écoute. Ouais. Tout à fait. À quoi vous pensez? Quelles sont les choses dans nos vies? Merci Dolores, c'est très, très pratique. Quelles sont les choses qui peuvent, de notre passé, qui peuvent nous ralentir de ce qui est derrière nous? Tout à fait. Il y a tous nos échecs passés, exactement. Tous nos erreurs, tous nos manquements, toutes nos imperfections, là où on sait qu'on n'a pas été à la hauteur. Et combien le diable se régale de nous culpabiliser, de nous écraser en nous disant « tu vois, tu te souviens, tu te rappelles là où tu t'es manqué. Tu n'es pas vraiment à la hauteur. » Le diable est un voleur de joie. Et je nous pose la question, quels sont peut-être ces échecs passés qui nous ralentissent encore aujourd'hui? Peut-être que vous luttez avec un péché dans votre vie qui amène du découragement. Paul, quand il dit « j'oublie ce qu'il y a derrière moi et je regarde devant », Paul avait un passé qui n'était pas très glorieux. Il avait persécuté des chrétiens, il avait fait mettre à mort des chrétiens, fait lapider des chrétiens. Et je pense que si une personne avait de nombreuses raisons de culpabiliser à propos de son passé, de ce qu'était sa vie, Paul en faisait partie. Colossiens, chapitre 2, versets 13 et 14 nous dit « Et vous, vous qui étiez morts à cause de vos fautes, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. » Ce passage nous parle de la grâce de Dieu. Si Christ s'est saisi de vous, c'est parce qu'il a déjà payé et subi les conséquences de toutes vos fautes passées, présentes et futures. On n'a plus à vivre en tant que chrétien sous cette culpabilité écrasante de notre passé peu glorieux. Autre chose que l'on peut regarder en regardant en arrière et qui peut nous ralentir, ce sont nos réussites, nos victoires, nos succès. Et on peut chercher à justifier notre vie chrétienne d'aujourd'hui par rapport à tous nos succès passés. Combien je rencontre des fois des frères et des sœurs qui ont comme arrêté de courir, qui ont comme ralenti dans leur vie. Et quand on discute un petit peu avec elles, elles disent « oui, mais regarde ce que j'ai fait, les grandes choses que j'ai menées par le passé. Regarde ces victoires, ce que Christ m'a permis de remporter. » La course n'est pas terminé. Ne baissons pas la garde. Les défaites retentissantes arrivent parfois après des victoires retentissantes. Et on peut penser à l'exemple de Haï, la bataille de Haï dans l'Ancien Testament, avec le peuple d'Israël qui arrive juste après la grande victoire de Jéricho. Paul ne s'est pas arrêté après la première conversion. Paul ne s'est pas arrêté après la première église implantée. Il est en prison quand il écrit et il dit « je continue ». La course. Regarder devant, c'est continuer d'avancer. c'est conserver ce désir de progresser, de ressembler toujours plus à Jésus-Christ. C'est choisir de faire un pas de plus vers l'étape suivante. Cette application pour nous, quel est le pas suivant que je veux faire cette année avec l'aide de Dieu? Est-ce un trait de caractère sur lequel je veux travailler dans ma vie? Est-ce que je veux passer plus de temps pour lire, pour étudier, pour méditer la parole de Dieu? Est-ce que j'ai envie de grandir dans ma vie de prière? Toutes ces choses n'ont pas pour mériter quoi que ce soit de la part de Dieu, mais parce que Christ s'est saisi de moi et j'ai ce désir de grandir. En ce sens-là, peut-être quelque chose de tout à fait pratique à laquelle je peux vous encourager dans cette perspective, c'est vous parler des groupes de croissance. Un groupe de croissance, c'est quoi? C'est 2-3 personnes du même sexe qui se rencontrent régulièrement au rythme où elles le définissent pour lire ensemble, se fixer des objectifs de lecture dans la parole de Dieu et de se retrouver régulièrement pour partager autour de la parole de Dieu et de se dire, voilà, de ce qu'on a lu cette semaine, qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a encouragé? Qu'est-ce qui vous pose question? Et de prier ensemble. Si vous ne faites pas encore partie d'un groupe de croissance, réfléchissez, faites cette prière au Seigneur. Seigneur, montre-moi peut-être un frère ou si vous êtes une femme, une sœur dans l'Église avec qui on pourrait s'encourager à grandir dans la lecture de la parole, dans la prière, prier l'une pour l'autre, les unes pour les autres et cheminer ensemble. Deuxième résolution de Paul, regardons les bons modèles. Verset 17, suivez tous mon exemple, frères, et observez ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Il dit la même chose dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Suivez donc mon exemple, comme moi de mon côté, je suis celui de Christ. Nous fonctionnons beaucoup par imitation. Il suffit de voir les enfants dans la cour de récréation qui jouent aux policiers, qui jouent au papa et à la maman, qui jouent au docteur. J'ai appris à me raser, non pas en regardant mon papa, qui ne se rasait pas, pendant longtemps en tout cas, maintenant oui, mais je me rappelle très fortement de cette image de mon beau-frère qui était dans la salle de bain. J'avais 15-16 ans, donc ça a commencé à arriver gentiment. Et je le regardais, et avec ses crèmes, la manière dont il faisait aller le rasoir et tout ça. Et je l'observais. Et du coup, je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, mais pourquoi tu mets de la crème? Et il dit, bah, parce que quand on passe le rasoir, c'est irritant. Alors moi, en plus, j'ai une peau un petit peu sensible, donc il a dit, j'ai une crème particulière. Et puis à la fin de se raser, il mettait son après-rasage. Je lui ai dit, mais pourquoi tu mets ça? Il dit, bah, parce que justement, on est un peu irrité. Et l'après-rasage, déjà, ça permet de sentir bon. Et en plus, avec l'alcool, ça vient atténuer et colmater les petites douleurs qu'il peut y avoir. Et un jour, première fois où je me suis rasé, j'avais l'image de mon beau-frère qui se rasait et j'ai commencé ses premiers gestes. Nous reproduisons ce que nous regardons, ce qui signifie aussi que nous reproduisons les bonnes choses et parfois les mauvaises choses, d'où l'importance de choisir nos modèles. Et Paul nous met en garde, il parle aussi un petit peu au verset 18 de ceux qui sont ennemis de la croix. Toutes celles et ceux en fait qui n'appartiennent pas à Christ, ne prenons pas modèle sur ces personnes qui nous amènent qui nous amèneraient à reproduire des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut. Mais imitons chez les autres ce qui chez les autres est à l'image de Jésus-Christ. Paul n'était pas du tout parfait, mais il voulait qu'on imite dans sa vie ce qui était le reflet de la vie de Jésus-Christ. Si mon objectif, c'est de vivre et de ressembler toujours plus à Jésus, alors c'est un encouragement cette année à observer ceux qui marchent comme Jésus afin de les imiter. Quels sont les aspects de Christ que je vois chez mes frères et mes sœurs? Cela signifie qu'on a tous à apprendre et on peut tous transmettre quelque chose dans nos vies. Est-ce qu'il y a une personne dans cette église qui est un modèle pour moi dans sa vie de prière? J'aimerais tellement progresser, apprendre, aller plus loin. Peut-être que je peux aller la voir dire, est-ce que ça te dit qu'on fasse un bout de route ensemble, qu'on partage sur nos vies, qu'on prie ensemble? J'aime beaucoup ta façon de prier, on peut le dire, on peut ne pas le dire. Et j'ai envie de progresser, est-ce qu'on peut passer du temps dans la prière ensemble? Peut-être une personne qui a un modèle de foi, peut-être une personne qui a un modèle de générosité, modèle de patience, modèle de facilité à partager sa foi, modèle dans la connaissance de la parole, modèle dans son altruisme, dans sa parentalité, dans son hospitalité, etc. Troisième résolution, regardons la fin glorieuse. Je rappelle les deux premières. Regardons devant nous, regardons les bons modèles, regardons la fin glorieuse. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Paul nous rappelle notre identité et notre espérance en tant que chrétiens. Nous sommes citoyens des cieux, et même si notre corps sur cette terre tend à dépérir et fait face à la souffrance, aux épreuves, à la vieillesse, il se dégrade, on sait qu'on est en chemin vers ce moment où on va recevoir de nouveaux corps. Parce que nous sommes entre ces deux mondes, parce que nous appartenons déjà à ce royaume des cieux, mais nous marchons encore sur cette terre qui est cette vie dans ce monde déchu, marqué par le péché et la souffrance. Alors comment, devant cette année qui est devant nous, est-ce que l'on peut faire face à la souffrance, aux souffrances qui sont liées à l'injustice, qui sont liées à la maladie, la vieillesse? Ça, c'est ce qui est le lot de tout le monde sur cette terre, mais aussi aux conséquences de notre péché et de ceux des autres. Les épreuves, les souffrances liées à notre foi en Jésus-Christ. Comment faire pour avancer? Paul nous dit, portez vos regards sur l'éternité. Pensez à cette vie glorieuse qui nous attend quand Jésus reviendra. Voilà qu'il ne va pas tout faire, ça ne veut pas dire que ça va enlever les difficultés, mais ça peut apporter un bienfait et un réconfort dans les épreuves et dans les souffrances. Romains 8, 17, 18. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Cette vie sur cette terre n'est pas tout ce que nous allons vivre. Après les épreuves et les souffrances liées à ces épreuves sur cette terre, une gloire inestimable, une gloire incomparable nous attend. Je veux terminer avec ce dernier verset que Paul adresse, en tout cas dans ce texte. « Ainsi donc, mes frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma récompense, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. » Et c'est cet encouragement, ce dernier encouragement que je veux nous laisser. Nous avançons dans des temps qui ne vont pas, en tout cas sur cette terre, en s'améliorant. Les épreuves vont venir et la vie va devenir de plus en plus difficile. On peut le constater en regardant l'actualité. Il est de plus en plus difficile aussi de vivre en tant que chrétien dans ce monde qui a rejeté Dieu. Comment est-ce que Paul nous encourage à tenir ferme? Il le dit de cette manière, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire là maintenant, en regardant devant nous, en regardant les bons modèles, en regardant vers l'éternité. Et il termine en restant attachés au Seigneur, un peu comme il a commencé. Christ s'est saisi de nous, et parce que Christ s'est saisi de nous, on peut avoir cette espérance, cette assurance qu'on va pouvoir continuer notre course jusqu'au bout. Je nous souhaite à tous et à toutes de grandir cette année à l'image de Jésus-Christ, avec l'aide du Seigneur et motivé par sa grâce. Et je vous invite à chanter pour terminer ce chant qui nous dit « Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême ».